En tout cas, voilà, ne pas se lasser d'aimer Dieu et de le chercher. Ça, c'est un peu mon leitmotiv en ce moment dans mes réflexions. Je l'ai dit déjà plusieurs fois quand j'ai eu l'occasion de prêcher. Parce que ça ressort toujours et toujours dans mes lectures, dans ce que je vois, dans ce que je me dis. Il y a vraiment cet élément central qui dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. C'est pas pour rien que c'est un verset central. C'est pas pour rien que c'est un verset cœur dans la parole de Dieu et qu'il est ressorti à un moment donné et tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien sûr, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'on peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme? Il y en a qui pourraient dire « Oui, bien sûr, de temps en temps. Par moment, parfois, ça peut arriver. Je me sens plein d'élan pour Dieu. » Je me sens plein de force, je me sens plein d'amour pour Dieu, mon cœur est à lui. Et puis d'autres fois, un peu moins quand même. D'autres fois, c'est moins la forme. Et c'est vrai que dans la vie chrétienne, on passe par des hauts et des bas, il ne faut pas se leurrer, mais l'objectif, c'est d'atteindre cette joie. Et en général, quand on est dans la tristesse, ou même quand on veut pleurer avec ceux qui pleurent, l'objectif, c'est pas de rester à pleurer, n'est-ce pas? L'objectif, c'est de pouvoir faire le chemin jusqu'à ce moment de joie, jusqu'à ce moment de réjouissance en Dieu. Et il y a des exemples, on pourrait peut-être trouver des exemples dans notre vie de choses qui occupent tellement nos pensées, qui demandent tellement de force, qu'on n'arrête pas de penser à ça, qu'on est même prêt à ne pas compter les heures. Moi, ça m'arrive très souvent dans le boulot, je suis tellement concentré que j'oublie de manger. Yeah, c'est ma pauvre épouse, c'est terrible pour elle, parce que pour elle c'est très important ce temps du repas. Et si comme hier soir je suis tout seul et que je suis concentré sur quelque chose parce que mon épouse est dehors, et ben j'oublie de manger. Parce que je suis concentré, mais ça nous arrive. Il y a des éléments, il y a des choses sur lesquelles on peut penser dans nos vies où on est tellement concentré, on a tellement de passion, on a tellement de... Alors ça peut être des choses futiles pour d'autres, que les heures ne comptent pas, qu'on passe du temps, on passe du temps. Il y en a qui s'enferment dans les jeux vidéo, c'est autre chose. Mais on sait comment, on sait y mettre beaucoup d'efforts, parce que la passion est là. Parce que la passion dans nos vies, dans nos cœurs est là. Vivre la passion pour Dieu, vivre une relation digne, saine, authentique, vraie, à la recherche de Dieu, dans l'attente de Dieu, mais sans cesse renouvelée. Parce qu'on a du chemin à faire, parce qu'on a de quoi avancer avec Dieu. Parce que ce qu'on croit connaître de Dieu, aujourd'hui, demain, devra faire son chemin pour qu'on connaisse encore plus, encore plus. Et on l'a chanté tout à l'heure, te connaître toujours plus. Te connaître de plus en plus. Christ a donné cette parole dans Luc 18, verset 8. « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Et je pense que c'est important de considérer cette parole, cette phrase, parce que ça veut dire que nous sommes tous les uns les autres concernés par cette parole. « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» On peut très bien croire qu'on est dans la foi, croire qu'on est dans la... Mais on peut aussi se tromper, parce que nous rentrons dans la routine, parce que nous rentrons dans les habitudes, parce que nous venons à l'église avec l'habitude, nous disons nous sommes chrétiens, nous disons nous sommes croyants. Mais Dieu qui regarde au cœur des choses, qui regarde à notre cœur et au fond de nous-mêmes, lui c'est ça qu'il considère. C'est là qu'il va poser son regard et qu'il va pouvoir établir sur notre vie un diagnostic. Et dire, toi, mon enfant, tu es malade. Je veux te soigner, je veux te guérir. Peu importe les apparences, ce que tu montres, la Bible nous appelle à toujours rester dans le fait de demander, de prier sans cesse. Et Jésus parlait de ça pour signifier le fait qu'il fallait toujours prier dans Luc 18 et ne pas se relâcher. Toujours être en recherche de la volonté de Dieu. Celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. En tant que croyants, nous avons besoin, non pas d'avoir juste des bases sur lesquelles on dit « c'est bon, je suis arrivé », mais des bases qui nous amènent à grandir, à pousser, à aller de l'avant, à établir vers Dieu une relation toujours plus grande. Et je voudrais prendre avec vous ce passage de Zachée. Et une fois, j'avais abordé ce passage de Zachée, il y a quelques années en arrière déjà. On avait eu l'occasion d'en faire une étude. Et je voudrais le reprendre avec vous dans Zachée, dans Luc chapitre 19. Et auparavant, nous allons prier. Seigneur, je te confie, Seigneur, ta parole. Je te confie, Seigneur, nos vies. Je te confie toutes choses pour que, Seigneur, ce qui peut faire défaut, Seigneur, à nos cœurs, vienne à la lumière de la vérité, à la lumière de ta parole, et que, Seigneur, là où nous sommes bien, Seigneur, en toi, merci parce que tu nous encourages, parce que tu nous fortifies, parce que tu restaures nos cœurs, tu restaures nos âmes, et c'est l'objectif, Seigneur, que tu veux atteindre, Seigneur, avec nos vies, dans nos vies. C'est pour ça que nous lisons la Bible, c'est pour ça que nous prions, c'est pour ça que nous venons devant toi, parce que tu es le seul qui a les paroles de la vie, parce que tu es le seul qui restaure nos vies et nos cœurs. Et ce matin, Seigneur, je veux te confier, Seigneur, cette parole, Seigneur, qui va être annoncée. Nous te remettons, Seigneur, nos vies, nos cœurs, nos oreilles, la manière dont nous entendons, dont nous écoutons. Sois, Seigneur, le Maître, le Roi, Seigneur. Nous t'ouvrons, Seigneur, nos cœurs, nous te donnons, Seigneur, toute chose, te livrons, Seigneur, nos vies, te prions, Seigneur, d'établir ton règne. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le livre de Zachée, donc Luc, chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Et disait, ah, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. C'est une histoire incroyable, ce qui s'est passé. C'est incroyable, parce que contre toute l'attente de la foule, Jésus-Christ s'est adressé au pire de tous. Zachée était un publicain, une sorte de collecteur d'impôts, quelqu'un qui travaillait beaucoup avec l'argent. Il était riche. Et les gens avaient du ressentiment envers lui. Et s'il décidait quelque chose de Zachée, ils auraient dit, celui-là, il va vite, 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 vite aller en enfer. Celui-là, il va pas, il n'est pas du tout prêt pour se tourner vers Dieu. Sa vie n'est pas en règle. Tout ce qu'il fait n'est pas bien. Tout ce qu'il fait ne va pas dans le sens du peuple. Il n'aide pas le peuple. C'est un vampire du peuple, parce qu'il prend l'argent. Mais lui, il faisait son boulot. Un boulot qui n'était pas sympa, et qui certainement, il y avait des excès dans ces métiers-là. Il prenait, il mettait de côté. Mais contre toute attente, l'attente de cette foule, ce que l'on peut penser, ce dernier a changé complètement de vie. Et moi, je suis étonné parce que, finalement, de cette foule qui avait ce regard sur Zachée, et tout le monde, visiblement, pensait quelque chose sur Zachée, de cet homme que personne n'aimait, qui n'était aimé de personne, Mais il était aimé et désiré de Dieu. Il était aimé et désiré de Dieu. Et ça peut nous interroger. Parce qu'est-ce qu'il y avait finalement entre lui, physiquement, entre lui et Jésus ? Il y avait un arbre, bien sûr, il est monté sur l'arbre, il était haut, et il y avait une foule. Il y avait une foule devant lui de gens qui l'empêchaient de s'approcher de Jésus. Et on voit à plusieurs reprises comment même les disciples, parce qu'ils pensent que soit des enfants vont déranger Jésus, ils cherchent à les mettre à l'écart, ils cherchent à les repousser. Et Jésus les reprend et leur dit « Non, laissez-les venir jusqu'à moi. » Parce qu'ils avaient peut-être un a priori, ces enfants vont déranger Jésus, cet homme-là. Non, mais laissez-le sur le côté. Il ne va pas venir trouver Jésus. Lorsqu'il y avait l'aveugle qui appelait Jésus, un autre dit « Mais arrête, n'importune pas le maître. » Et lui, il crie plus fort, parce qu'il veut se faire entendre du maître. Il veut se faire entendre de ce sauveur. Alors là, on l'amène. Et il se passe ce qui se passe. Et Jésus lui porte de l'attention. Zachée a devant lui une foule de juges qui, loin de connaître son cœur, le jugeait sur l'apparence extérieure, selon la chair. Et on le voit dans le passage où il est dit « Voyant tout cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Oh Jésus, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Vous rendez compte ? Lui qui est saint, lui qui est un homme de Dieu, il est allé loger chez un homme pécheur. Et le mot pécheur est dans la bouche de la foule. Et tous murmuraient, tous sans exception, murmuraient la parole. Et ils ne parlaient pas haut, parce que sinon Jésus allait entendre, bien sûr. Il ne voulait pas se faire reprendre. Donc il savait certainement qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Au fond d'eux-mêmes, ils devaient savoir que, quand même, penser comme ça, c'était peut-être pas juste. Mais tous murmuraient, ils parlaient, ils disaient combien c'était un homme pécheur. Ça, c'est ce qu'ils pensaient, mais Jésus est allé au-delà. Jésus, lui, disait dans Jean, chapitre 8, verset 15, aux pharisiens, il leur disait, « Vous jugez selon la chair. » Et il a poursuivi comment ? En disant « Moi, je juge selon l'esprit. » Il a dit « Moi, je ne juge personne. » « Moi, je ne juge personne. » Vous, vous jugez selon la chair. Jésus de dire « Moi, je ne juge personne. » Lorsque les gens viennent et lui amènent cette femme, en flagrant délit d'adultère. Vous connaissez cette histoire, bien sûr. Une femme qui a commis l'adultère, donc qui a trompé son mari, qui a été avec d'autres hommes, qui a fait mille choses qu'on pourrait penser contraires à ce que Dieu veut. Il l'amène, il la présente devant Jésus, et ils disent, voilà, selon la loi de Moïse, il faut la lapider. Il faut qu'elle meure, cette femme. Ça, c'est le peuple. Ça, c'est les religieux. Ça, c'est la foule qui pense et qui dit « Nous avons la loi avec nous. » Cette femme a commis un péché, et pas n'importe lequel. Elle est adultère. Elle a été loin dans son péché. On pourrait dire quand même, c'est grave. C'est grave. Elle a rompu son alliance peut-être avec son mari, elle a pu faire tout un tas de choses. C'est quand même grave. Jésus reste silencieux. Et ce qu'il dit, c'est que le premier d'entre vous qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Parce que ce que nous faisons, ce que nous disons, doit toujours nous renvoyer par rapport à ce que nous sommes. Peut-être des fois nous disons quelque chose parce que nous ne voulons pas être ce quelque chose alors que nous le sommes. Pour reprocher à quelqu'un de faire quelque chose de mal. Et pourtant, nous-mêmes, nous le faisons mal. En même temps, il faut savoir être vrai, être juste, être en accord avec la parole de Dieu. Et lorsque cette femme était là, Jésus lui a dit, alors moi non plus, je ne te juge pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Va et ne pêche plus. Bien sûr qu'il ne lui a pas dit d'aller continuer à faire ça. Mais il lui a offert le salut. On m'a récemment posé la question, parce que je parlais de ce sujet, et de savoir si je pensais que nous ne devons pas juger. Je pense que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, envie de juger. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous envie de mettre notre grain de sel à quelque chose, d'y aller un peu plus en avant. Mais je pense aussi que nous ne pouvons pas être juges et aimants. Nous ne pouvons pas être celui qui est le juge et celui qui apporte la restauration, celui qui apporte la libération par la parole de Dieu. Ça demande aussi de s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire juger. C'est poser un verdict. Poser une condamnation. Avoir des paroles qui décident de la condamnation d'une personne. Ça ne veut pas signifier ne pas avoir un avis, un point de vue. Et la Bible est claire sur ce point, sur le fait de ne pas juger. Et je citerai des passages. Dans Matthieu chapitre 7, verset 1, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Luc chapitre 6, verset 37, « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. » Romains 14, verset 10 et 13, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Jacques chapitre 4, versets 11 et 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? 1 Corinthiens 4, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Jean 12, 47, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et enfin, Jean 3, 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La parole parle du jugement. Elle parle du fait d'être nous-mêmes des juges. Et ce n'est pas notre fonction. Ce n'est pas notre fonction d'établir un verdict sur la vie de l'un ou sur la vie de l'autre. Mais notre objectif en tant que chercheur de Dieu, c'est de vouloir amener les gens plus près de Dieu. De vouloir espérer pour eux. Espérer contre toute espérance, contre toute attente, que la personne qui est dans le péché, que la personne qui est dans le doute, sorte de cela et se tourne vers Dieu et cherche Dieu de tout son cœur. Les hommes ont soif de vengeance. Et on pense supprimer le péché en supprimant la vie pour cette histoire de femme adultère. On croit que le fait de supprimer la vie de cette personne-là, ça effacera son péché. Ça supprimera son péché. Mais Jésus veut supprimer le péché en donnant la vie. Il veut supprimer le péché en donnant sa propre vie. Et s'il est venu, c'est pour que le péché soit anéanti. C'est pour que nos vies, en face de la croix, devant la croix, réalisent que nous avons besoin de Dieu. Qui que nous soyons, que nous disions chrétiens ou pas chrétiens, devant cette croix, où l'abominable s'est passé, où le terrible s'est passé, Jésus a tout accompli pour que le péché de nos vies soit anéanti. Et nous sommes tous dans la même barque. Nous sommes tous dans la même barque, que ce soit par des actes, que ce soit par des pensées. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin sans cesse que Dieu restaure nos vies. Nous avons besoin sans cesse qu'il mette sa lumière dans nos vies. Et que ce qui est dans les ténèbres, parce que nous avons bien souvent des choses qui sont dans l'ombre, dans les ténèbres, qu'on garde comme ça caché, que ça vienne à la lumière de Dieu. Et nous sachions nous mettre à genoux et demander pardon au Seigneur. Demander pardon pour cette vie dissolue que nous pourrions mener. L'espoir est dans la volonté de Dieu. L'espoir d'être restauré. L'espoir d'être amené à la lumière. L'espoir d'aller de l'avant. L'objectif de Dieu est de rétablir la relation avec nous. C'est pas de la détruire. C'est pas que tous les ponts, toutes les passerelles qui peuvent mener vers lui soient coupées. C'est qu'au contraire, de nouvelles passerelles puissent être construites par Christ, par cette œuvre qu'il a construite, que l'espoir de pouvoir atteindre, de pouvoir avoir une relation sincère, authentique avec Dieu soit d'actualité. L'objectif de Dieu, c'est de rétablir cette relation. Et quand la Bible parle d'amour, quand la Bible dit que Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime, elle parle du fait que Dieu veut travailler cette relation avec nous, veut construire une relation plus forte, plus solide. Le mot amour est un peu piégeant, parce qu'aujourd'hui il veut dire tout un tas de choses et on peut y mettre tout ce qu'on veut. Mais moi j'essaie de revenir un petit peu à la source des choses et je me dis une chose, quand un enfant se sait aimé, mais qu'il ne parle pas, que les mots ne sont pas là, qu'est-ce qui définit l'amour qu'il a de ses parents? C'est la relation qu'il découvre entre ses parents et lui. C'est l'attention que ses parents lui portent. C'est le fait qu'il existe en tant que personne. Et on voit combien des gens qui ont vécu des difficultés dans l'enfance, dans leur relation avec leurs parents, vivent aussi beaucoup de difficultés dans l'amour. Vivent aussi beaucoup de difficultés à considérer l'amour d'un père, à considérer l'amour tout court, et vont d'échec en échec. Parce que peut-être ils n'ont pas eu cette relation privilégiée avec des parents qui l'aimaient, des parents qui le désiraient, des parents qui voulaient de lui. Mais Dieu nous désire. Dieu nous veut entièrement. Dieu nous veut complètement. Et bien sûr, il veut répondre à la question du péché. Bien sûr, il veut résoudre la question du péché. Parce que ça ne veut pas dire qu'il faille tout accepter. Ça ne veut pas dire que sous prétexte d'amour, il faut tout accepter ce que la vie veut. Il faut être, comment on dit, tolérant. Mais il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du pécheur ou est-ce qu'on parle du péché? Si on parle du péché, c'est une chose. Si on parle du pécheur, c'est autre chose. Parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le cœur de l'homme. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas ce qu'il y a au fond même de nous-mêmes. Nous ne savons pas pourquoi des fois telle phrase, telle réaction nous implique telle réaction dans nos vies. Parce que peut-être nous avons vécu des désillusions étant plus jeunes, même tout jeunes. Et que ça a créé en nous une faille, une brèche. On est un univers à nous tout entier. Et il suffit qu'une planète collisionne contre une autre pour que ça fait tout un enchaînement de choses. Nos vies sont profondes, plus profondes que la mer. Et Dieu considère nos vies dans toute sa profondeur. Pourquoi est-ce qu'on est si prompt à juger? La réponse pour moi est que nous plaçons nos standards au-dessus de ceux des autres. On regarde dans notre propre vie, on croit que notre vie est parfaite. ou du moins on l'espère tellement fortement qu'on veut absolument se persuader. Et d'une certaine manière, on se pense supérieur et de fait meilleur que les autres. C'est implicite. Mais Jésus disait, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Toi qui juges, tu seras jugé. Toi qui condamnes, tu seras condamné de la même manière que tu juges, tu seras jugé. De la même manière que tu condamnes, tu seras condamné. » Alors, nous avons besoin de réfléchir sur la manière dont nous agissons peut-être les uns à l'égard des autres. Que ce soit dans l'assemblée ou que ce soit même à l'extérieur vis-à-vis des hommes et des femmes que nous connaissons en dehors de cette assemblée. Le fait est que dans le cas de Zachée, la foule s'était faite le juge de Zachée. Alors que Jésus, lui, a manifesté de l'attention, de l'intérêt et de l'amour. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il a fait à l'égard de quelqu'un qui le cherchait. Des publicains, il pouvait y en avoir beaucoup, qui étaient là sur le bas-côté, qui pensaient quelque chose de Jésus, celui-là. Il devait y avoir beaucoup de personnes comme ça qui étaient sur le bas-côté de la route et qui regardaient passer Jésus avec des gros yeux. Mais lui, la Bible nous dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Et ça fait une grande différence. Il voulait l'approcher malgré la marée humaine qui était devant lui. Zachée, toujours avec ce mot, chercher à voir Jésus. Et ça marque toute la différence. Ce à quoi répond Jésus, c'est au désir de son cœur. Un désir noble, saint, juste et profond. Zachée avait un désir dans son cœur, c'était de rencontrer Jésus. Et ça met toute la différence avec tout le reste parce que Jésus va s'adresser à lui directement. D'abord, il le connaît par son nom. Et ensuite, il lui dit, descends de là, il faut que j'aille dans ta maison. Il faut que je vienne chez toi. Il faut que je mange avec toi. Il faut que je vive avec toi. Oh, Zachée ne s'attendait certainement pas à ça. Parce que tous les gens qui sont autour de lui, la foule qui est entre lui et Jésus, lui qui était petit en plus, hein, donc les autres sont plus grands, pour ça qu'il est monté sur un sycomore aussi. Mais cette foule qui était là entre lui et Jésus, d'un coup, une porte s'est ouverte. Et c'est Jésus qui a tendu cette porte, qui a tendu la perche. C'est Jésus qui s'est adressé à lui. Parce que Zachée avait le désir de rencontrer Jésus. Il n'avait pas prié, il avait un désir. Le désir de rencontrer Jésus. Et Jésus a vu ce désir-là. Peu importe quelle était la personne qu'il avait en face de lui, il voyait ce désir-là. Ça pouvait être le pire des pécheurs ou autre, il voyait ce désir-là. Et c'est là toute la différence dans le rapport au péché, à ce qui défie l'ordre et la sainteté établie par Dieu. Il y a ceux qui pêchent, mais sans relâche, cherchent Dieu. Et celui-là, il tombe et se relève parce qu'il est dans un combat, parce qu'il est dans une lutte, parce qu'il veut aller, il veut retourner sans cesse avec Dieu. Et je l'ai répété déjà plusieurs fois, mais si le diable nous accule dans un coin, nous cherche à nous frapper, il ne faut pas rester dans les ténèbres, mais il faut aller vers la lumière. Et puis il y a celui qui a accepté le péché, mais c'est un peu dans le conflit. Et il cherche à s'en accommoder. L'évangile devient difficile à entendre d'un coup. Il faudrait le rendre plus moderne. Il faudrait qu'il soit plus dans l'air du temps. C'était à l'époque qu'on parlait des choses comme ça. Moi, je crois en Dieu, mais quand même, l'évangile est un peu difficile par moments. Et je ne pense pas qu'il voulait dire toutes ces choses-là. Ou alors ça, je ne sais pas, ce n'est pas super important. Ce passage. Voyez comment la différence entre les deux, c'est que l'un cherche à sortir des ténèbres pour aller vers la lumière, et l'autre cherche à rester dans les ténèbres et à tirer la lumière à lui. C'est impossible. C'est pas possible. Le compromis dans la vie du chrétien n'est pas possible. Soit l'un cherche à servir Dieu, et il le sert de tout son cœur, de toute sa force, de tout son être, soit il n'est pas dans cette position-là. Mais il faut être vrai avec soi-même. Il faut être vrai avec soi-même. Personne n'est tenu par l'obligation d'aller vers la lumière. Mais s'il veut la vie, c'est la seule solution pour lui. S'il veut la vérité, c'est la seule solution pour lui. Et c'est ça qui conduit des gens, des hommes et des femmes à se tourner vers Dieu. C'est qu'ils recherchent Dieu à un moment donné ou à un autre. Ils recherchent Dieu. Que ce soit d'une manière ou d'une autre. Mais il y a cette recherche de Dieu qui est là. Et c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi qui fait qu'on te tourne vers Dieu, qu'on se cherche. Il n'a pas dit « trouvera-t-il des saints ? Trouvera-t-il des hommes qui n'ont jamais péché ? Trouvera-t-il la foi ?» La foi est un combat, c'est une lutte de laquelle nous devons sans cesse et toujours nous relever. Le tout est que chacun assume ses choix, jusqu'au bout et sans compromis. Sans compromis. Vous voyez la différence. Il n'est pas question de juger qui que ce soit. Il n'est pas question de tourner un regard, de lancer un regard mauvais par rapport à quelqu'un. Mais chacun d'entre nous, nous devons être vrais avec nous-mêmes. Nous devons être vrais avec notre vie. Et celui qui a péché doit demander pardon à Dieu. Doit se repentir. Doit revenir à Dieu comme tout à nouveau. Et trouver en lui son salut, sa force, sa liberté, son espérance, sa joie, sa paix. Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Dieu parle au peuple et lui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie !» Et dans les choix que nous faisons, nous devons baser nos réflexions sur la parole de Dieu. C'est ce par quoi nos standards, ce par quoi tout ce que nous pensons peuvent se conformer à ce que Dieu veut. Il ne s'agit pas d'avoir des standards, il ne s'agit pas de dire « voilà ce qui est bon de penser », il s'agit de se conformer à ce que Dieu veut et à ce que Dieu dit. L'Église est le lieu où se rassemblent des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la place. Ce n'est pas le lieu. On n'a pas le temps pour ça, pour discuter d'un tas de choses, à savoir, est-ce que la Bible dit ça, ou est-ce qu'elle ne dit pas ça, ou est-ce que vraiment Dieu voulait dire ça, ou autre chose. On n'a pas le temps pour ça. Ce livre est vérité, et soit on l'accepte entièrement, soit on le rejette. Soit ce que Dieu dit interpelle d'une manière ou d'une autre nos cœurs et nous l'acceptons. Soit dans ce cas, nous devons nous positionner par rapport à ça. L'Église est le lieu de ceux qui ont soif de Dieu, qui ont une attente et un désir envers lui. Tout n'est pas parfait, bien sûr, il peut y avoir des perturbations, des turbulences comme dans un avion. Mais quand on est dans un avion, on connaît notre destination. On sait où on va. Des perturbations, des turbulences, il y en a tout le temps. Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, ceux qui ont été dans un avion et qui ont connu les trous d'air, ça fait peur. Ça fait peur. Et la vie, c'est pareil. Des fois, il y a des trous d'air. Des fois, il y a des turbulences. Mais nous cherchons à courir pour atteindre le but. Nous cherchons à courir pour nous tourner vers Dieu toujours et sans cesse. Parce que lorsque Christ posait la question à ceux qui étaient autour de lui, il y avait les 70 qui sont partis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Il y avait 70 personnes qui d'un coup sont parties. Ils ont dit, nous, on ne veut plus suivre Jésus. Non, c'est trop dur les paroles qu'il a à dire. Est-ce que Jésus est couru après? Est-ce que Jésus leur a dit, non, mais restez là! Non, mais restez là, c'est la catastrophe, ça y est, ils s'en vont tous. Où est-ce qu'ils vont? C'est la catastrophe, c'est un échec. Au contraire, Jésus s'est tourné vers ses disciples, il a dit, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent faire pareil? Il n'y a pas de problème. Parce qu'il cherche ceux qui désirent. Et Pierre lui a dit, mais non, mais où irions-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. Parce que tu as les paroles de la vérité. Parce que cette parole-là nous nourrit. Parce que cette parole-là nous donne la vie. Réjouit notre cœur, nous donne la paix. Ça, nous le reconnaissons. Et nous en voulons plus. Jésus n'a pas couru après ceux qui voulaient rester dans leur vérité, mais il a cherché ceux qui voulaient. Mais il s'est tourné vers ceux qui cherchaient la vérité. C'est comme ça qu'il disait, cherchez, cherchez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, demandez et on vous répondra. Parce que nous sommes dans cette démarche de toujours connaître plus Dieu. De toujours le chercher d'autant plus. Zachée avait ce désir d'être sauvé et de s'approcher de Christ. Et Jésus de dire à la fin, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà la mission de Christ. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc quand je parle du jugement, ça ne veut pas dire que j'ai un mauvais avis sur la manière dont peut-être vit une personne. Mais en tant qu'ami, je peux lui parler. Je peux lui dire avec l'amour. Avec le désir de voir cette personne restaurée. Pas le désir de voir, pas en étant son juge. Pas en étant son bourreau. Pas en étant celui qui met à plat sa vie. Et aussi, si aujourd'hui il y a des gens peut-être qui se sentent jugés. Peut-être même qui ont une vie qui a besoin de repentance. On ne peut qu'encourager à dire, mais repentez-vous. Tournez-vous vers Dieu. Qu'est-ce qu'on attend pour se tourner vers Dieu? Qu'est-ce qu'on attend pour demander pardon? Qu'est-ce qu'on attend pour plier les genoux? Qu'est-ce qui est plus grand que Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui a pris du pouvoir sur la recherche pour Dieu? Sur le désir de Dieu? Ça, c'est une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que je désire Dieu plus fort que je désire autre chose? Est-ce que j'aime Dieu plus fort que j'aime autre chose? Parce que dans la vie, on est amené à aimer d'autres choses, bien sûr. On est amené à faire d'autres choses. On est amené à être passionné d'autres choses. Mais quelle est la priorité que je donne à mon Dieu? À cet amour, à cette relation qui construit ma vie et qui donne du sens à ma vie. Prions. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui restaures et qui instruis nos vies, Seigneur, et nos cœurs. Merci parce que tu n'es pas notre juge, mais notre sauveur. Et nos cœurs, Seigneur, sont parfois durs, sont parfois tellement, Seigneur, emplis, Seigneur, de ce qui nous semble juste. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remettre toutes choses. Et bien sûr, être en mesure, par amour, de confesser nos péchés les uns les autres, d'entendre et d'écouter, Seigneur, de s'écouter les uns les autres, mais dans la recherche et le salut qui est en toi. Tu n'es pas celui qui dit seulement « Moi non plus, je ne te condamne pas, mais tu es celui qui dit aussi « Va et ne pêche pas. Va et ne pêche plus. » Chacun d'entre nous, Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi et implorer ta grâce pour nos vies, pour ce qui pourrait, Seigneur, être comme une foule, une barrière entre toi et nous. Mais ce désir, Seigneur, qui est dans nos cœurs, qu'il soit nourri par ta présence, qu'il soit nourri par ta restauration, qu'il soit nourri, Seigneur, par la sainteté qui est en toi, la vérité qui est en toi. Conduis-nous, Seigneur, dans la vérité. Instruis-nous dans la vérité. Dirige-nous, Seigneur, pour que nos vies puissent changer à ton contact. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour l'œuvre et l'action de ton esprit dans nos cœurs. Instruis-nous, sois notre lumière et que nous soyons Seigneur en mesure vraiment de tourner vers la lumière. Nous soyons en mesure Seigneur de venir Seigneur dans la lumière et non pas d'attendre que ce soit elle qui vient à nous. Au nom de Jésus, Amen.